Je voudrais tout d'abord saluer nos auditeurs et partager avec vous la fierté que constitue pour nous le lancement de notre podcast Parlons Europe, qui a été créé en étroite collaboration avec Lucie, Honorine et Jade, moi-même, Mathéo, tous les quatre étudiants en master d'études européennes et internationales à Lyon 2. Alors d'abord, quelques mots sur ce projet de podcast. À l'ère de la multiplication des médias et des moyens de s'informer, de la diffusion en continu sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les chaînes d'information plus traditionnelles d'actualité en tout genre, s'accompagnant souvent d'une surexposition et d'une surconsommation à ces dernières, plusieurs questions se posent. Quels sont les enjeux et problématiques des médias, notamment au niveau européen? Et comment le consommateur de ces médias, parce qu'on parle vraiment de consommation aujourd'hui, peut-il faire face à ces problématiques pour s'informer et peut-être mieux s'informer? Là est toute la question. Au programme aujourd'hui, il est question de la désinformation, autre nom pour désigner le phénomène des fake news, notamment en Europe, allant souvent de pair avec un autre fait, celui de la surexposition aux médias et à l'actualité, qui porte aujourd'hui un nom reconnu, celui d'infobésité.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
La construction européenne reste l'événement le plus important 50 dernières années. C'est l'Europe qui a vraiment changé le destin, l'espoir, la confiance que nous pouvons avoir dans l'avenir.
Alors pour commencer peut-être, Lucie, pourrais-tu nous donner une définition des fake news que l'on qualifie aussi de désinformation ? Je pense que c'est important d'avoir une base définitionnelle, notamment avec l'émergence d'un nouveau vocabulaire. Entre fake news, désinformation, infox ou encore mésinformation, il est parfois difficile de s'y retrouver et même de donner un sens à ces termes complexes.
Oui, comme tu le dis, c'est d'abord intéressant de voir que le terme de fake news s'inscrit dans l'affirmation d'un nouveau vocabulaire médiatique. C'est Julien Giry, docteur en sciences politiques à l'université de Tours, qui souligne le fait que ce terme a été désigné comme « mot de l'année 2017 » par le dictionnaire Collins. Ça témoigne bien de l'ampleur du phénomène dans ce que M. Giry appelle un processus de « naturalisation », selon ses mots, des fake news comme quelque chose qui fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne et avec lequel il nous faut composer. Pourtant, et c'est le nerf de la guerre, si on peut s'accorder sur l'ampleur de ce phénomène, lui donner une seule définition, claire et relativement unique, reste compliqué. Julien Giry nous dit à juste titre qu'il y a une part d'indétermination du fait de la polysémie du terme. On peut parler des fake news comme des rumeurs modernes, comme une forme particulière de théorie complotiste, comme de la propagande, comme de la désinformation, et je vous en passe encore d'autres, donc bon, on a du mal à poser les termes. Et c'est justement par leur caractère indéterminé et évolutif que les fake news sont un phénomène en construction. Donc établir une définition et risquer d'oublier une des composantes de ce vaste concept risque d'être insuffisant. Après, on peut quand même identifier quelques caractéristiques du phénomène sans tomber dans la simplification. Les fake news, de nature infocommunicationnelle, s'appuient sur deux notions principales, la manipulation d'une part, la croyance de l'autre. Ces deux notions impliquent également deux acteurs, l'émetteur du message et son récepteur. Du côté de l'émetteur, la fake news est sciemment conçue comme fausse, erronée, afin d'emporter l'adhésion du récepteur. C'est donc l'intentionnalité et le caractère délibéré de la tromperie qu'on retrouve chaque fois. Et paradoxalement, réalité et fake news ne sont pas des notions si antinomiques, puisque la fake news doit s'appuyer sur la réalité afin d'être vraisemblable, et non véritable, attention à bien faire la distinction, pour le récepteur. Du côté de ce dernier, donc du récepteur, c'est la croyance qui est mobilisée et qui consiste en l'adhésion à un ensemble de représentations et pratiques individuelles et collectives. Plus simplement, le récepteur doit pouvoir s'appuyer sur ce qui lui est familier.
Merci Lucie, tu nous as montré que le phénomène est complexe et que donner une définition unique reste compliqué puisque c'est un phénomène encore en évolution. Jade, pourrais-tu du coup nous parler de l'enjeu que représente le phénomène de désinformation ? Des fake news, à l'échelle européenne, et de manière concrète, je pense notamment au Digital Services Act, qui a été adopté entre 2022 et 2023 par la Commission européenne. Que peux-tu nous en dire ? Quels sont les objectifs de cette nouvelle législation ? Et à quoi vient-elle s'opposer ?
Alors, quand on parle aujourd'hui de désinformation en Europe, on parle d'un phénomène qui dépasse largement la simple question des fake news. Avec le numérique, la vitesse, la portée et surtout l'impact des fausses informations, celles-ci se sont démultipliées. On parle de rumeurs virales, de deepfakes, de manipulations algorithmiques et même de campagnes orchestrées par des bots. Ce phénomène a des conséquences très concrètes. Il affaiblit la confiance dans les médias, polarise le débat public et peut menacer directement l'intégrité des élections. On l'a vu par exemple lors des campagnes européennes de désinformation liées à la guerre en Ukraine ou encore pendant certaines élections nationales où de faux récits ont circulé massivement pour semer le doute ou la division. Et l'enjeu est vraiment démocratique. Dans nos sociétés, la qualité du débat public dépend de la qualité de l'information à laquelle les citoyens ont accès. Or, la désinformation mine cette base commune de confiance. Elle brouille la frontière entre le vrai et le faux, entre l'opinion et le fait. Face à cela, l'Union européenne a décidé de réagir. Et c'est là qu'entre en jeu le Digital Services Act, ou DSA. Adopté en 2022 et entré progressivement en application depuis 2023, ce texte constitue un véritable tournant dans la régulation du numérique en Europe. L'objectif du DSA, c'est d'adapter la législation européenne à l'ère des grandes plateformes, celles qui structurent aujourd'hui l'accès à l'information, comme X, Facebook, YouTube ou TikTok. Concrètement, le DSA cherche à responsabiliser ces plateformes et à protéger les utilisateurs tout en garantissant leurs droits fondamentaux. Alors, comment ça fonctionne ? Le texte impose plusieurs obligations majeures, notamment pour les très grandes plateformes, celles qui comptent plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne. La première obligation, elles doivent évaluer les risques systématiques que leurs services peuvent poser, par exemple en matière de désinformation, de manipulation de l'opinion ou d'atteinte aux processus électoraux. Deuxième point, elles doivent faire preuve de transparence sur leur système de modération et sur les algorithmes de recommandation. Autrement dit, elles ne peuvent plus décider seules et dans l'opacité de ce qui est amplifié ou censuré. Le troisième volet, les plateformes doivent ouvrir certaines données aux chercheurs pour permettre une analyse indépendante des dynamiques de désinformation. Enfin, elles doivent mettre en place des mécanismes de signalement et de recours pour les utilisateurs et s'exposent à des sanctions pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial en cas de manquement grave. En clair, l'idée est de mettre fin à l'ère de l'autorégulation où les géants du web disaient « faites-nous confiance, on s'occupe de tout ». Le DSA crée un cadre européen commun, contraignant et fondé sur trois piliers, la sécurité, la transparence et la responsabilité.
Jade, tu viens de nous décrire ce qui me semble être un tournant dans l'accès et surtout dans la diffusion de l'information en Europe. Selon toi, est-ce que cette législation est suffisante, peut-être trop contraignante? Et surtout, qu'en est-il face à la liberté d'expression, qui est quand même, je dirais, un des principes démocratiques par excellence?
J'estime que la désinformation est une menace réelle, mais la tentation d'enrayer cette menace peut vite conduire à des formes de surveillance ou de censure. Le DSA tente d'éviter ce danger. Il ne dit pas « interdisez les opinions dérangeantes », il dit « soyez transparents, prenez vos responsabilités, évaluez vos impacts ». Mais dans la pratique, la frontière reste ténue. Qu'est-ce qu'un contenu trompeur et qui en décide? C'est tout le défi de ce texte, trouver l'équilibre entre la lutte contre la manipulation et le respect du pluralisme des opinions. Et c'est d'autant plus difficile que les outils de désinformation évoluent très vite. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, on peut produire des vidéos, des voix ou des images totalement inventées, mais presque indiscernables du réel. Les mécanismes de régulation doivent être souples, adaptables et réactifs. Finalement, le DSA n'est pas seulement une loi sur les services numériques, c'est aussi une déclaration politique. Celle d'une Europe qui veut défendre ses valeurs démocratiques dans le monde numérique. Il s'agit de dire, oui, la liberté d'expression est un droit fondamental, mais elle ne peut pas servir de paravent à la manipulation ou à la haine. Et en même temps, toute régulation doit rester proportionnée, transparente, contrôlée, pour ne pas se transformer en outil de contrôle du discours public.
Alors merci Jade, tu nous as montré la difficulté pour cette législation de réguler en fait ce phénomène et tu nous as montré en même temps l'aspect très politique d'une telle législation et d'un tel phénomène. Mais Lucie, dis-moi si la Commission européenne a décidé d'établir une législation pour lutter contre la désinformation. Cela signifie-t-il que l'on s'informe et que l'on communique mal? Est-ce en quelque sorte une sonnette d'alarme pour nous dire « attention, il faut changer nos habitudes de consommer l'information » ?
Pour répondre à ta question, il faudrait d'abord distinguer deux termes, s'informer et communiquer, qui sont deux notions très différentes. Quand s'informer va plutôt mettre en jeu la volonté de s'enquérir d'une information, communiquer au contraire peut désigner le partage conscient ou inconscient d'une information. Or, c'est dans l'entrelacement de ces notions qu'on voit bien notre difficulté à nous informer. Selon la maxime sociologique, on ne peut pas ne pas communiquer, c'est-à-dire que chaque geste, chaque parole, chaque regard, chaque choix vestimentaire, et j'en passe d'autres, envoie une information à nos interlocuteurs, qu'elle soit volontaire ou non. Beaucoup d'informations, donc, à digérer au quotidien. Et je vous laisse imaginer la quantité d'informations qu'on absorbe quotidiennement depuis les années 2000 et l'arrivée d'Internet. Pour l'ancien enseignant de sciences politiques à la Sorbonne, Lucien Sfez, spécialisé dans les sciences de la communication, on est aujourd'hui dans une, je cite, « société de la communication », marquée par un éclatement de la communication dans toutes les directions, que ce soit dans l'entreprise, le monde politique, la presse, l'audiovisuel, la sphère religieuse, bref, partout. Alors, oui, on communique mal, dans le sens où on communique trop et de manière non maîtrisée. Là où cette surconsommation devient une crise informationnelle, c'est dans le traitement des informations perçues et dans la valeur qui leur est prêtée dans l'espace public. Avec la démocratisation de l'information, rendue possible notamment par l'horizontalité des médias, tout le monde a accès à une vaste quantité de données, d'opinions, d'analyses, qui est à double tranchant. D'une part, c'est le fondement d'une démocratie de la connaissance, selon le philosophe espagnol Daniel Innerarity. Pour lui, la démocratisation de l'information mène à celle de la connaissance et va façonner une société, adaptative et habituée à l'innovation, qui réfléchira sur elle-même, débattra et sera également capable de prendre en charge la nouveauté qui émerge dans les processus sociaux. Alors, tout en admettant l'existence de ce qu'il appelle des rumeurs, c'est-à-dire des opinions en conflit, cherchant à mobiliser, attirer l'attention, inquiéter, tranquilliser, autrement dit tout ce que nous aujourd'hui on appelle tout ce qui est subjectif, des perspectives individuelles, Daniel Innerarity, lui, dresse une nouvelle définition de la connaissance qui serait ce savoir incertain, mais partagé par tous, et sujet donc à débat, à délibération, suivant, vous le comprenez, le modèle démocratique. On peut toutefois contester au philosophe son fervent optimisme dans la gestion populaire de l'information, comme l'ont fait, en l'occurrence, les adeptes d'une démocratie de la croyance, plutôt que de la connaissance. Parce que faire d'une information une connaissance requiert de s'engager dans un processus de réflexion et de traitement de données, traitement qui nous permet de prendre des décisions sur la base de la connaissance en question ainsi construite. C'est afin d'encourager ce processus critique que le gouvernement français, dès les années 1980, crée le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. À l'aune du développement exponentiel du numérique, apparaissent en effet de nouvelles manières d'éduquer aux médias et à l'information. Et c'est là que ça devient intéressant, il s'agit désormais d'éduquer non pas par les médias, mais bien d'éduquer aux médias. La même prise de conscience transparaît à l'échelle européenne en 1989 avec la Charte européenne pour l'éducation, appelée également Euro Media Literacy, qui définit les compétences et savoirs attendus chez l'apprenant en vue du développement de son esprit critique. Même l'UNESCO d'ailleurs reconnaîtra en 2006 dans son rapport, je cite, le rôle important de l'éducation aux médias dans la préparation des jeunes pour les sensibiliser au libre-échange de l'information et de la connaissance en appréciant les médias et en participant à leurs divers usages.
On a beaucoup parlé jusqu'à présent du tournant que représente la désinformation, amenant à une nouvelle lutte, la lutte contre les fake news, mais le phénomène est-il nouveau pour autant ?
C'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'il s'agit d'un événement né des réseaux sociaux, de l'ère numérique. Est-ce que c'est le cas, Mathéo ?
Alors pour répondre à cette question, que l'on peut se poser à raison, j'aimerais m'appuyer sur un ouvrage de Michel Pretali et Giovanni Zagni qui s'intitule « Une histoire de la désinformation, fake news et théorie du complot, des pharaons aux réseaux sociaux ». Ce qui est intéressant, et c'est ce que démontre l'ouvrage, c'est de voir que c'est un phénomène ancien, et même très ancien, puisque Michel Pretali et Giovanni Zagni remontent jusqu'à l'Antiquité. Les fake news ne sont donc pas nouvelles en tant que telles, et pour le montrer, ils prennent l'exemple du cheval de Troie comme mythe. Alors, je coupe court au débat tout de suite. Effectivement, on parle d'un épisode mythologique, dont on doute largement que cela puisse être une vérité historique, puisqu'en effet, un mythe, étymologiquement, c'est un récit fictionnel. C'est en effet le cas, mais ce qui est important ici, ce n'est pas le statut du mythe, mais ce qui s'y passe à l'intérieur de ce mythe. La fake news se trouve en réalité à l'intérieur du mythe donc, et notamment à travers un personnage clé, Sinon. Sinon, c'est un envoyé par les Grecs qui a pour but de tromper les Troyens, donc le camp ennemi. Les Grecs construisent un cheval contenant en son ventre des soldats qui, à la nuit tombée, ouvrent les portes de Troie aux autres soldats restés à l'extérieur. C'est là où le mythe est très intéressant, puisque Sinon répand une fake news doublement fausse dans le camp des Troyens. Il dit que les Grecs ont abandonné le siège de la cité et que le cheval de bois laissé aux portes de la citadelle est une offrande à Athéna qu'il faut impérativement faire entrer dans la ville afin d'arrêter la guerre. Si l'on fait jouer les caractéristiques des fake news que tu as évoquées, Lucie, qu'est-ce que cela donne ? Déjà, on a bien un émetteur, Sinon, qui est l'espion grec, qui conçoit à dessein une fausse information et dont le but est d'obtenir l'adhésion des Troyens. Du côté du récepteur, les Troyens donc, l'histoire de Sinon leur apparaît vraisemblable, et donc croyable, du fait de l'utilisation d'un contexte qui leur est familier. En effet, il est possible que les Grecs aient abandonné le siège, car il n'y a plus de traces visibles pour les Troyens, des soldats, et il est aussi possible que lassés de la guerre, puisque le siège dure depuis 10 ans, les Grecs décident d'arrêter la guerre. On a bien là donc tous les ressorts de la fake news. Et même s'il s'agit de mythologie, on constate qu'on n'est pas très loin de ce que l'on retrouve aujourd'hui, de ce que l'on expérimente aujourd'hui avec nos fake news modernes. Il y a donc bien une forme de continuité du phénomène. Pour aller même plus loin, on discerne un paradoxe. On prône souvent la vérité, la transparence, mais en même temps on voit bien que le faux, la tromperie, le mensonge et tout le vocabulaire associé fait partie de nos représentations, et en témoigne en fait ce mythe. Alors, nous venons de voir, grâce au mythe de la chute de Troie, qu'il y a une véritable continuité du phénomène des fake news de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais alors, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour que l'on puisse aujourd'hui engager une lutte contre la désinformation, les fake news ?
Oui, est-ce que ce serait le statut qu'on accorde aux informations, aux médias qui est différent ? Est-ce que ce sont nos besoins d'information qui ont connu une forme de révolution ?
Alors oui, Déjà, pour commencer, un premier changement qui est assez évident, c'est celui de l'échelle, de l'ampleur du phénomène. Il y a un article très intéressant, par ailleurs, du National Geographic, qui démontre que la lutte contre les fake news, contre la désinformation, existait déjà avant. Au 19e siècle, par exemple, on retrouve tout un ensemble de lois qui, progressivement, sont mises en place par les autorités afin d'empêcher la circulation de fausses informations. En France notamment, le code pénal de 1810 réprime sévèrement les spéculateurs qui diffusent de fausses nouvelles pour susciter la hausse ou la chute artificielle de titres ou de marchandises. En janvier 1854, l'Écho agricole, qui est un journal de l'époque, est poursuivi pour avoir publié de faux cours du blé. Un autre exemple tout aussi éclairant, dans l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, celle-ci punit de lourdes amendes, je cite, « la publication, la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses ». Alors qu'est-ce qui ressort de ces législations? Je dirais que c'est d'abord la prédominance de la punition sur le contrôle. Ces législations, qui peuvent à raison nous paraître insuffisantes à l'époque actuelle, ne mettent pas en place un réel cadre de régulation, mais seulement de punition. Par ailleurs, cela se confirme, l'insuffisance notamment de ces législations, puisque leur effet se trouve être très limité. Le 19e siècle regorge de fausses informations, dans les journaux, avec le bouche à oreille également. Ce qui a donc vraiment changé entre hier et aujourd'hui, si je puis dire, ce n'est pas l'affirmation soudaine de lutter contre les fake news, mais la nécessité d'instaurer un cadre de régulation, qui n'est pas seulement celui de la punition. Et quand on pense à la régulation, on pense aussi à l'éducation, aux médias, ce que l'on ne retrouve absolument pas au 19e siècle. Et puis, autre changement, la nécessité d'un cadre de régulation non plus seulement national, j'évoquais des exemples français, mais un cadre qui soit international du fait de l'ampleur du phénomène. J'aimerais ajouter un dernier changement, qui est celui de l'évolution du regard des sociétés sur les médias, qui est important à souligner. Quand on pense information, on pense automatiquement aux faits réels, concrets, et à l'idée que l'information révèle, relate la réalité. Mais c'est une vision qui ne va pas du tout de soi, et il faut en avoir conscience, notamment au 19e siècle. Comme le dit Julien Chou, maître de conférence à Paris-Nanterre, la presse de cette époque possède une large part de fiction correspondant à une attente du lectorat qui désirait du sensationnel, quelque chose qui puisse être émouvant, poignant, tout en leur étant familier dans une certaine mesure, et dont on voit bien d'ailleurs que ce sensationnel-là s'appuie de manière assez conséquente sur la fiction. Un autre phénomène s'affirme depuis quelques années maintenant, et tu peux peut-être nous en parler, Honorine. À côté de la désinformation, il s'agit aussi de l'infobésité, qui vont souvent de pair. Peut-être pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste ce phénomène et quel est le lien entre ces deux phénomènes?
Oui, alors l'infobésité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la surcharge informationnelle. C'est-à-dire le fait d'être exposé à tellement d'informations chaque jour qu'il devient difficile, voire impossible, de toutes les traiter. En fait, c'est la contraction d'info et d'obésité. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais c'est aussi et surtout la vitesse à laquelle ces informations arrivent et la multiplication des canaux et moyens d'information, tels que les réseaux sociaux, les notifications ou encore les médias en ligne et les messageries. Or, nos capacités cognitives humaines ne suivent pas ce rythme. Nous avons un cerveau conçu pour traiter un flux limité d'informations, mais nous vivons dans un environnement numérique où les contenus se renouvellent en permanence et dans un monde dans lequel tout va beaucoup trop vite. Le lien avec la désinformation, c'est que cette surcharge rend beaucoup plus difficile la vérification et la mise à distance critique. En fait, quand on est assailli d'informations, on n'a plus vraiment le temps de distinguer le vrai du faux, de hiérarchiser les sources ou simplement de réfléchir. Ce qui peut d'ailleurs être mis en lien avec l'ère de la post-vérité, dans laquelle nous serions entrés selon certains chercheurs. C'est-à-dire que l'on ne prend plus vraiment la peine de chercher à vérifier si une information est vraie ou fausse, on la prend pour acquise. En effet, en Europe, plus de 70% des internautes lisent chaque jour des actualités en ligne selon Eurostat en 2023. Et un Européen consomme en moyenne plus de 7 heures de contenu numérique par jour d'après Euronews en 2024. En France, un cadre reçoit environ 120 emails quotidiens et passe plus de 5 heures par jour à gérer sa communication digitale, d'après l'Observatoire de la qualité de vie au travail en 2023. Ce constat rejoint celui d'une étude menée par l'Université de Gand en Belgique en 2022. Selon laquelle près d'un tiers des jeunes adultes européens se sentent submergés par l'information. Donc tous ces chiffres montrent bien à quel point nous vivons dans une époque où l'accès à l'information est total, mais où la compréhension et la hiérarchisation deviennent de plus en plus fragiles. Donc sur le plan sociologique, l'infobésité s'inscrit dans la continuité de ce que des penseurs comme Jean Baudrillard ou Gilles Lipovetsky décrivaient comme la société de consommation. En bref, nous ne consommons plus seulement des biens matériels, mais aussi des signes, des images ou encore des informations. L'information est devenue un produit soumis aux mêmes logiques que les autres. Production de masse, obsolescence rapide, quête de nouveautés permanente. Cette inflation informationnelle crée une illusion d'abondance. En fait, plus nous avons accès à des données, plus on a l'impression d'être connecté au réel. Mais paradoxalement, cette abondance finit par affaiblir la valeur même de l'information, exactement comme la surproduction industrielle a pu affaiblir la valeur symbolique des objets.
Alors, merci Honorine pour cette définition très intéressante sur l'infobésité. Tu nous as montré quelque chose de très intéressant à souligner, je pense, l'idée que si l'infobésité se concentre plus sur le consommateur de l'information, ce qu'on a appelé plutôt le récepteur, la désinformation, quant à elle, se focalise davantage sur l'émetteur de l'information. Et on voit bien, en fait, à la fois l'interdépendance des deux phénomènes, mais en même temps, la différence entre les deux. Une dernière question, peut-être, Honorine, sur l'infobésité, pour aller un peu plus loin sur ce phénomène. En quoi l'utilisation d'un terme pathologique pour désigner ce phénomène de surcharge informationnelle est-il révélateur d'un danger de l'information dont il semble que l'on soit de plus en plus conscient aujourd'hui ?
Alors pourquoi parle-t-on d'un phénomène pathologique et qu'est-ce que cela révèle ? En fait, le mot infobésité est intéressant parce qu'il emprunte au vocabulaire médical. Tout comme la surconsommation alimentaire entraîne des déséquilibres physiques, la surconsommation d'informations peut créer des déséquilibres cognitifs et psychologiques, comme le stress, la perte de concentration, une fatigue mentale, voire de l'anxiété, et enfin un sentiment d'impuissance face aux situations délivrées dans l'actualité. Ce choix de vocabulaire traduit une prise de conscience. On commence à percevoir l'information non plus comme un simple bien immatériel, mais comme quelque chose qu'il faut apprendre à doser et à digérer. Derrière ce mot, il y a donc une alerte sociale et sanitaire. Si nous ne développons pas une forme d'hygiène informationnelle, nous risquons de perdre notre capacité à faire de l'information une véritable connaissance, c'est-à-dire quelque chose que l'on comprend, que l'on relit et surtout que l'on intègre. Le fait de qualifier cette surcharge d'infobésité montre qu'il devient urgent de retrouver une hygiène informationnelle, c'est-à-dire d'apprendre à trier, hiérarchiser et limiter notre exposition pour préserver notre équilibre cognitif et émotionnel. Ce mot agit donc comme un signal d'alarme collectif. Si nous ne régulons pas notre consommation d'informations, nous risquons de perdre la capacité même à transformer cette information en connaissance. On peut rapprocher ce danger de celui que Kafka illustre dans Le Procès. Son personnage principal est en fait écrasé par un flot d'informations et de rumeurs qu'il ne comprend pas, jusqu'à en perdre toute maîtrise et finalement toute humanité. Cette confusion entre le vrai et le faux et entre le sens et le non-sens, c'est exactement ce que l'infobésité engendre aujourd'hui. Une perte de repères dans un monde saturé de messages.
Merci Honorine. J'ai beaucoup aimé notamment l'allusion à Kafka, qui est un de mes auteurs préférés. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de l'enjeu que représente à la fois la désinformation et l'infobésité. Peut-être pour t'amener, Lucie, pourrais-tu nous faire part des outils mis à disposition afin de lutter contre ces deux phénomènes ? Car comme on vient de le voir, cela engage notre santé mentale et physique. Selon toi, ces outils, donc, qui peuvent apparaître comme des solutions, sont-ils par ailleurs suffisants ? Y a-t-il encore des zones grises qui doivent être traitées, discutées ?
Dans le milieu professionnel ou scolaire, l'infobésité peut conduire à une saturation, donc une dégradation du processus décisionnel, voire à une paralysie des capacités à faire le bon choix. Afin de protéger sa productivité et sa concentration face à un flux constant de nouveautés, il est donc de plus en plus recommandé d'abandonner l'idée d'exhaustivité et d'admettre qu'il n'est pas possible de tout voir et de tout traiter. Les entreprises sont également de plus en plus nombreuses à mettre en œuvre un mode structuré du traitement de l'information, en passant par des applications de tri ou par des décisions managériales sur le protocole à suivre quand on s'informe. Mais il est évident que la surcharge informationnelle dépasse le cadre du travail et que des habitudes sont aussi à prendre à l'échelle individuelle. Ça peut passer par la déconnexion numérique, et d'ailleurs pas d'excuse pour les workaholics, parce que le droit à la déconnexion vous protège. Mais ça peut également passer par la sélection des sources informationnelles. Renseignez-vous sur les médias que vous écoutez, ont-ils une ligne éditoriale particulière, sont-ils financés par des acteurs de l'opinion publique ? Thème d'ailleurs dont on parle dans notre prochain épisode. On en profite également pour rappeler à nos auditeurs étudiants à Lyon 2 qu'ils ont accès à des médias comme le New York Times ou Mediapart avec leurs identifiants universitaires. Et enfin, des podcasts, des émissions, des comptes Instagram, je recommande d'ailleurs vivement l'esprit critique, vous permettront d'entraîner votre œil critique. On vous encourage fortement à suivre aussi des médias comme l'Agence France-Presse, Reuters, Les Surligneurs et bien d'autres qui publient régulièrement des articles de fact-checking, c'est-à-dire qu'ils démantèlent les fake news et illustrent le chemin de pensée à avoir face aux nouvelles informations, parfois trompeuses. Enfin, tous ces réflexes, bien qu'encouragés par l'institutionnalisation européenne, sont à l'échelle individuelle et restent une zone grise. C'est pour ça que le rôle de l'éducation aux médias et à l'information est aussi important et qu'il faut continuer à sensibiliser les gens au risque de la désinformation et de l'infobésité.
Alors, merci Lucie pour tous ces conseils, toutes ces ressources aussi disponibles pour lutter contre ces deux phénomènes. Le mot de la fin, ou plutôt les mots de la fin, seront ceux du sociologue Dominique Cardon, qui dit, je cite, « Ne pas penser que les autres sont crédules, nous sommes tous crédules », ce qui nous montre bien qu'il s'agit de phénomènes collectifs, et pas seulement individuels, qui nécessitent une action à grande échelle, au niveau européen, qui est encore à façonner. Eh bien, merci pour votre écoute, chers auditeurs, et on se retrouve pour un prochain épisode qui portera notamment sur l'indépendance des médias européens et sur leurs différentes orientations politiques.
Merci beaucoup. Au revoir à tous.
Merci.
Merci pour votre écoute.